Vous écoutez, on lit pour vous.
Sur le fil. Le China Maxing, le phénomène web qui nourrit l'aura de la Chine. Un texte de Simon Gionnet paru le 15 avril 2026 dans Le Devoir. L'environnement numérique est un terrain incontournable pour la compréhension des luttes politiques, des tendances culturelles et des mouvements sociaux d'aujourd'hui. Dans la rubrique « Sur le fil », Le Devoir propose chaque mois d'en décortiquer un phénomène. Aujourd'hui, le phénomène web du « China Maxing » ou « Comment de jeunes occidentaux cherchent à adopter le mode de vie et les traditions de la culture chinoise ». Nous vivons à une époque très chinoise. C'est du moins le constat qui émerge des milliers de contenus nés du phénomène nommé « China Maxing », popularisé récemment sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram auprès de jeunes occidentaux. Dans un ton à la fois ironique et quelque peu sincère, des internautes publient des mèmes et des vidéos dans lesquelles ils affirment aspirer à devenir chinois en adoptant des traditions et des habitudes de vie propres à la culture chinoise. Parmi ces actions visant à maximiser cette identité, ne boire que de l'eau chaude, porter des pantoufles à la maison, faire ses courses dans une épicerie asiatique ou encore apprendre le mandarin. « Demain, tu deviens chinois », lance sur TikTok l'influenceuse Sherry Tsu, qui a attiré des millions de personnes en faisant la promotion en ligne d'habitudes de vie chinoises. « Tu m'as rencontré à un moment très chinois de ma vie », reprennent plusieurs internautes en référence à un dialogue connu du film « Fight Club ». D'autres font remarquer à quel point le mode de vie occidental, vêtements, appareils ménagers, cellulaires, ordinateurs, est le fruit de la production industrielle chinoise. La tendance, abondamment couverte dans les médias anglo-saxons ces derniers mois, intrigue. Le phénomène présente une bonne part d'humour et fait partie de la culture du même, mais révèle aussi une fascination réelle pour la Chine, sa culture et ses mœurs. Et bien que critiqué par des membres de la diaspora chinoise pour sa marchandisation de la culture, le mouvement a aussi été propulsé par plusieurs internautes sino-américains. Les tendances maxing. Le suffixe « maxing » réfère à l'action d'optimiser un aspect de sa vie ou de le mener à son plein potentiel. Sur le web, les tendances qui contiennent ce mot rallient donc des internautes qui souhaitent optimiser leur mode de vie, leur apparence ou leur alimentation, par exemple. Le terme le plus connu formé de ce suffixe, « looks maxing », a émergé de la manosphère et désigne la volonté de jeunes hommes d'améliorer le plus possible leur apparence physique grâce à divers moyens. Ces tendances peuvent être de nature sérieuse ou, dans le cas du China Maxing, légèrement ironique ou absurde. Nouvelle perception. Cette idée de devenir chinois surprend beaucoup d'observateurs occidentaux, surtout en raison de cette rhétorique anti-chinoise qui perdure depuis longtemps en Occident, observe Jérémy Tai, historien de la Chine moderne et professeur agrégé de l'Université McGill. Il suffit de remonter à la pandémie de COVID-19 en 2020, qui avait déclenché en Occident une vague de sinophobie et de racisme anti-asiatique. Le confinement sévère ordonné par Pékin et les images médiatisées de drones survolant les tours d'habitation à Pékin avaient alors alimenté une vision dystopique du pays sous le Parti communiste chinois. Une époque qui offre un contraste frappant avec les prémices du China Maxing. La perception de la Chine, de la société et de la culture chinoise en général a évolué dans une direction plutôt positive récemment, convient Quan Huang, professeur spécialisé en culture numérique à l'Université de Groningue, aux Pays-Bas. La popularité de TikTok ces dernières années a pu préparer le terrain à l'émergence du phénomène du China Maxing, selon elle. La professeure rappelle que l'interdiction temporaire de la plateforme TikTok aux États-Unis en janvier 2025 a mené à une migration de jeunes Américains vers un autre réseau social similaire, RedNote, très utilisé en Chine. Plusieurs internautes ont alors eu l'occasion de se familiariser avec la culture chinoise et de voir que le contenu n'était pas aussi censuré que le décrivaient certains médias occidentaux, relate-t-elle. Jérémy Taille ajoute que les réseaux sociaux et le récent essor de la culture pop asiatique, pensons à la K-pop, au cinéma coréen, aux mangas et jeux vidéo japonais, ont amené les jeunes de la génération Z à se montrer beaucoup plus critiques des représentations stéréotypées de l'Asie et de la Chine. Mes étudiants me racontent qu'ils trouvent désormais plus de contenu pro-Chine sur les réseaux sociaux qu'ils voient sur des fils d'actualité des vidéos qui vantent le faible coût de la vie, les villes futuristes, les véhicules électriques et les trains à grande vitesse. Kill Line et désenchantement. Jusqu'à tout récemment, la Chine peinait à développer sa puissance douce, soft power, en Occident, contrairement au Japon et à la Corée du Sud qui sont parvenus à s'imposer comme des forces culturelles mondiales. Cela semble en voie de changer. Afin de stimuler une industrie touristique affaiblie par la pandémie, Pékin a récemment assoupli ses règles en matière de visa pour les visiteurs de plusieurs pays, dont le Canada, et ainsi ouvert la porte à des influenceurs présentant le pays sous un angle enviable en ligne. Sur le plan culturel, la Chine a effectué des gains avec la popularité des peluches La Bubu, l'attrait de ses séries dramatiques et le succès éclatant de l'athlète sino-américaine Eileen Zhu aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina. En pleine guerre tarifaire déclenchée par le gouvernement Trump, Pékin s'est en outre présenté à l'international comme un partenaire économique fiable et un chef de file en matière d'investissement en transport, en énergie verte et en intelligence artificielle. Durant l'hiver, au plus fort du phénomène, plusieurs observateurs ont relevé que le China Maxing reflétait une désillusion des jeunes générations par rapport à l'idée du rêve américain, terni par des inégalités croissantes, la flambée du coût de la vie et de la montée de l'autoritarisme aux États-Unis sous la seconde présidence de Donald Trump. Le déclin de l'image des États-Unis peut ainsi paraître profiter à la Chine, qui, en dépit de ses politiques autoritaristes, se voit perçue comme un pays avant-gardiste et stable, aux politiques socialistes plus égalitaires. La Chine devient un lieu où les jeunes peuvent critiquer l'Occident, résume le professeur Jérémy Taille. Il mentionne d'ailleurs une tendance en ligne présente en Chine appelée « Kill Line », mort imminente, qui fait référence au seuil à partir duquel les Américains peuvent tomber dans une spirale de pauvreté à la moindre erreur, devant un filet social et un système de santé décrit comme extrêmement précaire. Autrefois en Chine, dans les années 1980, c'était les États-Unis qui étaient considérés comme la terre de toutes les possibilités. C'est un peu l'inverse aujourd'hui. Il y a simplement un désenchantement envers l'Amérique, indique l'historien. C'était le China Maxing, le phénomène web qui nourrit l'aura de la Chine, un texte de Simon Dionnet, paru le 15 avril 2026 dans Le Devoir.
Santé mentale, l'occasion ratée par Québec. Un dossier de Nathalie Collard, paru le 12 avril 2026 dans la presse. Québec propose d'élargir les critères de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, connu comme la loi P38. La nouvelle loi permettra d'hospitaliser contre son gré quelqu'un en crise plus facilement. Mais sans ressources supplémentaires en santé mentale, va-t-on vraiment pouvoir aider les gens qui souffrent? Notre chroniqueuse revient sur les principaux arguments dans ce débat. C'est un pas dans la bonne direction. Julien Gendron-Tardif est soulagé. Le jeune homme dont la mère a été assassinée par son jeune frère, Emmanuel, en janvier 2023, accueille positivement le projet de loi 23 déposé par les ministres Sonia Bélanger et Simon Jolin-Barrette en mars dernier. Dans sa nouvelle mouture, la loi élargit les critères qui permettent d'hospitaliser de force un patient aux prises avec de graves enjeux de santé mentale. C'est un pas dans la bonne direction, croit-il. Il n'est pas le seul. De nombreuses familles ainsi que plusieurs intervenants, organismes et coronaires réclamaient la modernisation de cette loi adoptée en 1997. Ma mère est décédée le 25 janvier à 7h27. Je pense que mon frère a rencontré les critères de P38 à 6h ce matin-là, pas avant, affirme-t-il. 4 jours plus tôt, Julien s'était pourtant rendu avec Emmanuel aux urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On est resté dans mon auto pendant une heure. J'essayais de le convaincre d'y aller, raconte Julien, rencontré au lendemain de l'annonce des deux ministres. Comme son cadet ne représentait pas un danger, grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, un critère de l'actuelle loi P38 pour hospitaliser quelqu'un contre son gré, la famille s'est sentie impuissante. L'été précédent, Emmanuel avait pourtant été hospitalisé. Il est resté une semaine à l'hôpital, puis il est revenu vivre chez sa mère, raconte Julien. Il prenait sa médication et il allait mieux. Mais à un moment donné, il l'a arrêté, ainsi que son suivi psychiatrique, sans qu'on ne sache pourquoi. Julien croit que si lui et sa mère avaient été informés des décisions de son frère, cela aurait pu changer l'issue tragique qui a décimé sa famille. Un processus lourd. On a un enjeu au Québec, lance la psychiatre Claire Gamache. On traite les gens à partir du moment où ils posent des gestes criminels. Il faut que ça change. C'est elle qui est présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, AMPQ, réclame depuis longtemps que la notion de « danger grave et immédiat » pour traiter de force un patient soit modifiée pour un critère de « besoin de soins » ou de « risque de compromission ». On veut pouvoir agir quand on pense que le risque est important. Par exemple, pour quelqu'un qui est en train de tout perdre à cause de sa psychose, même s'il n'est pas dangereux, dit la docteure Claire Gamache. La loi actuelle exige l'implication de psychiatres à toutes les étapes, précise la docteure Claire Gamache, que j'ai interviewée avant le dépôt du projet de loi 23. C'est très long, ça fait beaucoup de paperasse et d'avocats dans les hôpitaux. Le projet de loi 23 prévoit que toutes les demandes soient centralisées au tribunal administratif du Québec par des juges spécialisés, plutôt qu'à deux tribunaux différents, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Le projet de loi prévoit aussi une meilleure communication entre les différents intervenants et les proches des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Je ne sais pas si la nouvelle mouture de P38 aurait pu changer les choses dans notre cas, observe pour sa part Julien Gendron-Tardif. Selon lui, bien avant que son frère commette l'irréparable, son état a souffert d'un manque de ressources et d'interventions. Le diagnostic de la schizophrénie d'Emmanuel est venu après le meurtre, dit-il. Il n'en avait jamais été question avant. Il y a eu un mauvais diagnostic qui a été fait à l'hôpital la première fois et qui nous a handicapés pour le reste. On n'avait pas l'impression que ça pouvait être plus grave, alors que c'était fondamentalement plus grave. Des manques criants. Le manque de ressources en santé mentale, c'est un des principaux constats de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, IQRDJ. Quelques mois après le meurtre de Lisanne Gendron, la mère de Julien Gendron-Tardif, le ministre responsable des services sociaux de l'époque, Lionel Carman, a confié à l'Institut le mandat de réviser la loi P38 pour mieux encadrer la garde en établissement et assurer la protection des droits des personnes malades. Or, dans un rapport étoffé déposé en septembre 2025, l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice concluait qu'il ne fallait pas élargir les critères de la loi P38 afin de protéger les droits fondamentaux des personnes malades. On recommandait plutôt d'ajouter des ressources en santé mentale. La Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui a déposé un mémoire lors des consultations de l'Institut, est témoin tous les jours du manque de ressources en santé mentale. Il n'est pas rare qu'un de nos policiers, en train de remplir un rapport dans le stationnement d'hôpital où il vient d'amener quelqu'un sous P38, voit la personne ressortir après un examen rapide, pour ne pas dire expéditif, du médecin, observe son président, Yves Franqueur. Ils n'ont pas le temps. La loi P38 est devenue, au fil des décennies, un substitut à l'absence de ressources de crise, observait pour sa part l'Institut dans son rapport qui contenait 35 recommandations. Elle est souvent le seul moyen pour une famille d'obtenir une évaluation psychiatrique rapide, ajoutait-on à propos de P38 en précisant que le système judiciaire est saturé, par des cas qui relèvent de la santé mentale. Or, le gouvernement Legault n'a pas tenu compte de l'avis principal de l'IQRDJ. La pression populaire et médiatique à la suite des morts tragiques de Lisanne Gendron et de la sergente Maureen Bro en 2023 et du commerçant Chung O-Kim à la fin de l'hiver était trop forte. On parle d'un équilibre entre les droits de la personne, mais aussi les droits de la société civile. C'est justifié la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, quand un journaliste lui a demandé pourquoi elle allait à la rencontre des conclusions de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. C'est quoi la loi P38? La loi P38 donne à un médecin le pouvoir de demander la garde en établissement ou hospitalisation forcée pour quelqu'un qui refuse des soins s'il représente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Cette loi d'exception a été adoptée en 1997 sous le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard. La garde préventive, d'une durée maximale de 72 heures, ne nécessite pas l'autorisation d'un juge. Elle permet un arrêt d'agir. L'autorisation d'un juge est toutefois requise pour obtenir une garde plus longue, maximum 6 jours, dans le but de faire une évaluation psychiatrique, et il faudra l'évaluation de 2 psychiatres pour une garde encore plus longue. Dans tous les cas, le patient peut refuser le traitement et la médication. Il peut également contester sa garde devant les tribunaux. Le projet de loi 23 propose en gros de remplacer le critère de danger grave et immédiat par une situation où il existe un danger pour la personne ou pour autrui. Il prévoit aussi des mécanismes pour que les différents intervenants, police, personnel médical, famille, etc., puissent mieux communiquer et partager des informations pertinentes. Vous écoutez Santé mentale, l'occasion ratée par Québec, un dossier de Nathalie Collard paru le 12 avril 2026 dans la presse. Le traumatisme de l'hospitalisation forcée. On l'a souvent entendu au cours des derniers mois, le Québec serait le champion des verdicts de non-responsabilité criminelle. La loi ontarienne est souvent citée en contre-exemple, car elle n'impose pas le critère de danger immédiat pour hospitaliser de force quelqu'un dont l'état mental se détériore. L'Ontario a créé un tribunal spécialisé qui peut siéger à l'intérieur des murs des hôpitaux, ce qui réduit les allers-retours et la bureaucratie. Mais il y a des angles morts à cette approche. Pour les avocats, par exemple, le système ontarien pose problème, car il fait reposer le fardeau de la contestation sur le patient qui doit lui-même saisir les tribunaux s'il veut contester sa garde. Or, une personne qui ne va pas bien n'est pas toujours en état d'entreprendre ses démarches. Et c'est sans compter les effets d'une hospitalisation et d'un traitement forcé sur les personnes souffrantes et leur entourage. J'en ai parlé avec Étienne Paris-Gagné, professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Il participe à plusieurs projets de recherche qui sont à l'intersection du système de justice et de la santé mentale. Il y a beaucoup d'amalgames entre la santé mentale, la dangerosité et la criminalité, déplore le chercheur. Pourtant, les personnes aux prises avec des troubles mentaux sont beaucoup plus victimes de violences qu'à risque d'en commettre. Selon les données, on parle de 97 % des crimes qui sont commis par des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, dit le professeur Paradis-Gagné. C'est minime, mais il y a une surreprésentation dans l'image publique de gens dangereux atteints de troubles de santé mentale. Le professeur Étienne Paradis-Gagné a une connaissance fine des effets de la loi P38 sur les individus. Pour une étude, il a rencontré des personnes ayant été hospitalisées de force. Il est également chercheur principal dans un projet financé par le gouvernement fédéral qui porte sur le vécu des familles ayant eu recours à la loi pour faire traiter un proche contre sa volonté. Dans les deux cas, les conséquences peuvent être très néfastes. Une étude Corderoy et Hall montre que les effets négatifs de l'admission involontaire, traumatisme, perte d'estime de soi, etc., sont plus élevés que les bienfaits cliniques, note-t-il. Quand l'exception devient la norme. Ces critiques sont portées par de nombreux groupes de défense des droits des personnes souffrant de problèmes de santé mentale qui ont répertorié de multiples abus au fil des ans. Je souhaiterais qu'on commence par bien appliquer la loi avant qu'il y ait une réforme, lance François Winter, porte-parole de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, AGDD-SMQ. Ce qui est important, ajoute M. Winter, c'est notamment de respecter les droits des gens et de traiter cette loi-là comme ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une loi d'exception. Or, selon lui, les chiffres montrent qu'on y a trop souvent recours. On note une hausse de 78 % des requêtes de garde entre 2012 et 2022, avance-t-il, alors que les bénéfices cliniques de l'hospitalisation involontaire sont jugés faibles et souvent traumatisants. On peut bien demander de réviser la loi P38, mais demain matin, est-ce qu'il va y avoir davantage de services de crise? Non. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est à qui ça sert? Ça ne sert certainement pas aux personnes qui souffrent. L'hôpital, ce n'est pas un milieu de vie. Même son de cloche de la part de l'Observatoire en justice et santé mentale, qui, dans son mémoire soumis à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, plaide pour la fin de l'hospitalocentrisme et de la médicalisation des problèmes sociaux. De nombreux intervenants et organismes entendus lors des audiences publiques de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, IQRDJ, ont d'ailleurs souligné que la loi P38 était trop souvent utilisée pour pallier l'absence de services en hébergement, en gériatrie ou en toxicomanie. Résultat, on judiciarise des besoins qui relèvent d'un manque d'accompagnement social. Un constat confirmé sur le terrain. On a plein de P38 pour des patients en démence parce qu'il faut les garder contre leur gré. On judiciarise des personnes âgées, ça n'a aucun sens, s'indigne la psychiatre Claire Gamache. Dans ce contexte, le recours systématique à la loi P38 est-il un aveu d'échec? Absolument, me répond la docteure Gamache sans hésiter. Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui voit d'un bon œil le projet de loi 23, se demande pour sa part comment on répondra à la demande dans le futur si on élargit les critères de la loi. Ça fait des années qu'on demande des infirmières et infirmiers de rue ainsi que davantage d'équipes multidisciplinaires, souligne Yves Francoeur. On revient toujours au manque de ressources. Et à ce que ce manque implique qu'il faut malheureusement une tragédie pour avoir accès à des services. J'ai beaucoup plus d'accompagnement et de ressources aujourd'hui, me confirme tristement Julien Gendron-Tardif. C'est symptomatique qu'on attende après le drame pour réagir. Et le projet de loi 23 n'y changera pas grand-chose. Au moment d'écrire ces lignes, le gouvernement ne prévoit rien pour s'attaquer aux véritables causes de la crise de santé mentale qui frappe le Québec. Oui, on pourra hospitaliser plus facilement les gens qui ne vont pas bien avec le projet de loi 23. Et peut-être, j'écris bien « peut-être », pourra-t-on éviter des tragédies. Mais s'il n'y a pas plus de ressources pour les gens qui souffrent et de soutien pour leurs proches, si on ne finance pas davantage les organismes communautaires qui les aident et si on ne fait rien pour rétablir la confiance des usagers dans un système perçu comme trop coercitif, alors à quoi bon une nouvelle loi? Le petit projet qui donne de grands résultats. Un projet pilote refinancé in extremis permet de réduire les demandes d'évaluation psychiatrique sans consentement de façon importante en Montérégie-Est. Danielle Bédard, directrice générale du Carrefour en santé mentale pour les familles et l'entourage CSMFE, explique. En 2023, votre organisme a mis sur pied un projet pilote d'intervention. En quoi consiste-t-il? On demandait depuis des années qu'un intervenant puisse se joindre à la première ligne lors d'une situation de crise afin de pouvoir ouvrir le dialogue avec la famille. La Direction de la santé mentale et dépendance du CISSS a entendu notre demande. Notre projet pilote prévoit que deux intervenants, un provenant de notre organisme et l'autre du centre de crise, l'accès, à Longueuil, participe à l'intervention. Le problème avec la loi P38, c'est que souvent les familles font hospitaliser leurs proches et ils ressortent le lendemain. Notre projet pilote vise à prévenir le recours à P38. La co-intervention avec toute la famille, qui est basée sur le dialogue, peut aussi se poursuivre avec différentes options comme l'hébergement et l'accompagnement. La co-intervention permet aussi de rétablir les liens au sein de la famille. Dans 80 % des cas cette année, on a évité l'hospitalisation de force, qui peut être éprouvante pour la personne concernée, mais aussi épouvantable pour une famille. C'est un traumatisme, rappelle Daniel Bédard. En 2025, Le Devoir rapportait que Santé Québec avait coupé votre financement. Quelle est la situation aujourd'hui? Après des échanges avec le ministère de la Santé, on a réussi à obtenir du financement pour un an seulement. Notre projet avait pourtant retenu l'attention du ministre responsable des services sociaux de l'époque, Lionel Carman, qui voulait l'étendre à la grandeur du Québec, dans notre réseau qui compte plus de 50 associations dont la mission est de soutenir les familles et l'entourage d'une personne qui vit une problématique de santé mentale. C'est une approche d'intervention qui permet de faire des économies en évitant l'hospitalisation, qui coûte beaucoup plus cher. Est-ce le seul projet du genre au Québec? L'organisme Arborescence à Montréal a un projet similaire, mais travaille davantage avec des pères aidants famille. Il y a deux semaines, j'ai présenté notre projet à l'Institut Pinel devant un groupe d'intervenants et de gestionnaires des réseaux communautaires et publics de la santé, dont la docteure Claire Gamache, présidente de l'Association des médecins psychiatriques du Québec. Il y avait beaucoup d'intérêt. C'est un projet à plus faible coût qui pourrait facilement se reproduire à la grandeur de la province. Ça permettrait d'éviter le phénomène des portes tournantes que plusieurs déplorent. Que pensez-vous du projet de loi 23 qui vise à moderniser la loi P38? Il y a des bonnes choses dans ce projet de loi. Entre autres, on permettrait à la personne qui souffre de problèmes de santé mentale de remplir une demande anticipée de soins. Cela fait longtemps que nous souhaitons que les personnes concernées aient le premier choix dans la façon dont elles souhaitent être accompagnées si leur situation se détériore au point où elles ne puissent plus décider pour elles-mêmes. Comme intervenante de crise, c'est notre travail d'ouvrir la discussion jusqu'à la dernière minute pour tenter d'éviter d'avoir recours à ces mesures d'exception. Nous avons hâte de voir s'il y aura plus de ressources sur le terrain. Pour le moment, les ressources financières visent à actualiser la loi et non à prévenir dans la communauté, ce qui pourrait être évité. C'était Santé mentale, l'occasion ratée par Québec. Un dossier de Nathalie Collard, paru le 12 avril 2026 dans la presse.